Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 64, Daf Samech Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Ragman nous dit, de cette seconde braïta, il y a deux questions. Kasha Melika Amelika. Il y a premièrement une question à propos de la Melika. Nous voyons dans la première braïta que celui qui fait la Melika, un oiseau, n'est pas passible de punition s'il a du Hametz en sa possession. Et dans la seconde braïta, nous voyons qu'il est passible de punition. Et Kasha Aktara Akta. Et il y a le fait d'offrir les membres du sacrifice sur l'autel, qui est aussi une question. Dans la première braïta, nous voyons que si le Kohen qui offre les membres du sacrifice sur l'autel a du Hametz en sa possession au moment où l'on abat la bête, il transgresse un interdit. Et dans la seconde braïta, nous voyons qu'il ne transgresse pas un interdit. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Samer Gimel. Nous commençons Bezrat Hashem, le shiur de Daf Samer Dalet. Nous avons vu dans le shiur précédent qu'il y a une contradiction entre deux braïtot. Dans une première braïta, nous disons que celui qui fait la Melika est un procédé, comme nous l'avons expliqué dans le shiur précédent, que lorsqu'on en offre un oiseau en tant que sacrifice, on ne l'abat pas comme avec l'abattage rituel, comme on le fait pour une bête, mais il y a un autre procédé qui s'appelle la Melika, c'est-à-dire qu'on lui tranche la gorge avec l'ongle du pouce. Et nous avons vu dans une première braïta que celui qui fait la Melika à un oiseau lorsqu'il a en sa possession du Hametz, la veille de Pessah, ne transgresse pas un interdit. Et dans une seconde braïta, nous voyons qu'il transgresse un interdit. Ça, c'est une première question que nous avons, une première contradiction qu'il y a entre deux braïtotes. Et la seconde contradiction, nous avons vu que dans la première braïta, si le Kohen qui offre les parties du sacrifice sur l'autel a du Hametz en sa possession lorsqu'on a abattu le sacrifice de Pessah, alors il transgresse un interdit. Et dans la seconde braïta, nous voyons qu'il ne transgresse pas d'interdit. Alors c'est une seconde contradiction. Comment répondre à ces contradictions? Ragman nous dit, et nous sommes daf samech dalet amud alef, deuxième ligne. Alors Ragman demande, Viltaimir, et d'après ce que tu veux, d'après comment toi tu veux m'expliquer, tikshelachigouva, tu peux me poser une question dans la seconde braïta en elle-même. Tu n'as pas besoin de me rapporter une contradiction entre deux braïtot. Dans la deuxième braïta en elle-même, il y a une contradiction. Dektane, car nous avons enseigné dans la seconde braïta, lo amro et la bepe sarbilvad. Ce n'a été dit qu'il y a un interdit de posséder du Hametz lorsqu'on abat le sacrifice, seulement à propos du sacrifice de Pessah. Ve'adar tane, et juste après cela tu enseignes, echad ha-shochet, ve'echad ha-zorek, ve'echad ha-molek, que soit celui qui abat la bête, soit celui qui en jette le sang, soit celui qui fait la melika à un oiseau, ve'echad ha-malek, soit celui qui asperge du sang d'un sacrifice sur l'autel, s'il a du Hametz en sa possession, il est passible d'une punition. Or, il est impossible que la Melika, nous parlons du sacrifice de Pessah, car le sacrifice de Pessah ne peut être que un agneau. Donc ici, la Melika, c'est sûr que c'est un autre sacrifice. Et malgré tout, nous voyons que celui qui fait la Melika, donc en fait, il fait un autre sacrifice, s'il a du Hametz en sa possession au moment de la Melika, il est passible de punition pour avoir transgressé cet interdit. Or, la Braïta vient nous dire que l'on est passible de punition et pour avoir transgressé cet interdit que lorsque l'on offre le sacrifice de Pessah. Donc il y a une contradiction dans la braïta en elle-même. Et là, alors, nous sommes obligés d'expliquer, Avea Rabbi Shimon, que ces deux braïtot suivent l'opinion de Rabbi Shimon, qui nous a dit dans la Mishnah deux règles. Et la première règle est que l'on est passible de punition pour avoir transgressé cet interdit que lorsqu'on avait du Hametz en sa possession, lorsqu'on a amené le sacrifice de Pessah le 14 dans l'après-midi, ou lorsqu'on a amené d'autres sacrifices durant la fête. Et donc, Melika, Melika, le kasher. À propos de Melika, il n'y a pas de contradiction. Kan Barbas, ici nous parlons du 14 Nissan dans l'après-midi. Et donc d'après Rabbi Shimon, lorsqu'on apporte un autre sacrifice en possession du Hametz le 14 Nissan dans l'après-midi, on n'est pas passible de punition. Kan Becholosh El Moed, ici nous parlons les jours de demi-fête. Et d'après Rabbi Shimon, les jours de demi-fête, si on apporte un autre sacrifice en possession du Hametz, on est passible de punition pour avoir transgressé cet interdit. Veidi veidi Rabbi Shimoni. Et aussi, à propos de la deuxième contradiction, nous pouvons dire aussi que les deux braïtot suivent l'opinion de Rav Shimon. Et Aktara, Aktara, Nami Lokashia. Et à propos de ce que nous avons vu, à propos du Kohen qui offre les parties du sacrifice qui sont offertes sur l'autel, s'il a du Hametz dans sa possession au moment où l'on abat la bête. Alors aussi, ce n'est pas nami lo kasha, ce n'est pas une contradiction. Tanaï, c'est une discussion de Tanaïm à propos de Rav Shimon. Quel est l'avis de Rav Shimon dans ce cas-là? Dekadema ki shaktara le shkita. Il y en a qui font juxtaposer le fait d'offrir les membres sur l'autel à la shkita, à l'abattage, et donc de même que celui qui abat la bête n'a pas le droit d'avoir du chametz sur sa possession. De même, le Kohen qui offre les membres de la bête sur l'autel n'a pas le droit d'avoir de chametz sur sa possession. Et il y en a qui ne juxtaposent pas la haktara, le fait d'offrir les membres du sacrifice sur l'autel, à la shkita, à l'abattage rituel. Et donc, puisqu'ils ne juxtaposent pas ces deux choses-là, même si le shochet, celui qui abat la bête, n'a pas le droit d'avoir du chametz en sa possession, mais le Kohen qui offre les membres de la bête sur l'autel a lui le droit d'avoir du chametz en sa possession. La Gemara rapporte maintenant un extrait de la Mishnah. Rabbi Yehuda nous dit, Afatamid, même le sacrifice holocauste journalier de l'après-midi, si on la porte en possession de chametz, on transgresse un interdit. Maïtama, la Gemara demande, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda pense que même à propos de l'holocauste journalier de l'après-midi, il y a un tel interdit? Alors la Gemara répond, Amalekha, il te dit, Zifri, il est écrit dans le verset, tu n'offriras pas mon sacrifice en présence de chametz. Et donc, Zevach Ameyuchadli, le sacrifice qui est spécial pour moi, ou Maniou, et quel est ce sacrifice? Tamid, le sacrifice holocauste. Donc de là, Rabbi Yehuda apprend que même l'holocauste journalier de l'après-midi, il est interdit de l'offrir en possession de chametz. Rabbi Shimon nous dit, la Gemara apporte maintenant encore un autre extrême. Rabbi Shimon dit, HaPesach Be'arba Asar, le sacrifice de Pessah le 14 dans l'après-midi lorsqu'il a été offert en tant que sacrifice de Pessah, alors on transgresse un interdit, Bechoulé, etc. Et nous avons vu donc que Rabbi Shimon a deux règles. Première règle qui nous dit que on est passible de punition pour avoir transgressé cet interdit, que si on a abattu le sacrifice de Pessah, la veille de Pessah, en possession de chametz, ou d'autres sacrifices durant la fête en possession de chametz. Ragma demande, Maïtama de Reb Shimon, quelle est la raison de Reb Shimon? Pourquoi lui il pense que cet interdit se rapporte que sur le sacrifice de Pessah, la veille de Pessah, ou sur les autres sacrifices durant la fête? Dirtiv, Zifri, très imné. Il est écrit deux fois, Zifri, mon sacrifice. Et donc, Karebe, tu devras lire différemment, Zevach, Zevachai, le sacrifice et mes sacrifices. Donc nous faisons ici le Yud de Zifri qui est répété deux fois, nous le faisons passer au second mot Zifri, et donc le premier est lu Zevach et le second est lu Zevachai. Et donc l'Agma demande, les Maï Ilcheta Palginu Rachmana. Alors pour quelle raison la Torah les a séparés? Pourquoi n'est-il pas écrit une seule fois Zevachai mes sacrifices? Pourquoi avons-nous besoin de parler Zevach le sacrifice de Pessah et Zevachai mes sacrifices, c'est-à-dire mes autres sacrifices? Donc pourquoi la Torah les a séparés mais adadés d'ensemble? Velokata Zevachai, la Torah n'a-t-elle pas écrit une seule fois Zevachai mes sacrifices? Les mêmes pour nous dire qu'il y a ici deux interdits différents. Bisman deka Zevach, au moment où il y a le sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah, l'omechaya va Zevachai. Alors on n'est pas passible de punition si on a du chametz lorsqu'on apporte les autres sacrifices. Bisman de Leika Zevach. Par contre, au moment où il n'y a pas de sacrifice de Pessah, c'est-à-dire durant tout le reste de la fête, Michaïa Vazevachai, on est passible de punition si on apporte les autres sacrifices en possession de Khametz. La Gemara apporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Uba Moed, Lishmo Pato. Et durant la fête, si on amenait le sacrifice de Pessah en tant que sacrifice de Pessah, on est exempt. Car le sacrifice de Pessah, en tant que sacrifice de Pessah, s'il est offert en tant que sacrifice de Pessah durant la fête, il n'est pas valide. Le seul moment où le sacrifice de Pessah est valide lorsqu'il est offert en tant que sacrifice de Pessah, c'est lorsqu'on l'apporte dans le 14 dans l'après-midi, la veille de Pessah. Mais durant la fête, il n'est pas valide. Et donc c'est pour cela que l'on est exempt de punition. Par contre, si on a amené le sacrifice de Pessah en tant qu'un autre sacrifice durant la fête, à ce moment-là, il est valide. Et donc, il sera considéré comme étant un autre sacrifice. Et si on avait du chametz en sa possession lorsqu'on l'a abattu, alors on sera passible de punition. Alors, Gma demande, Tama de Shelolishmo, toute la raison pour laquelle on sera passible de punition lorsqu'on amène le sacrifice de Pessah durant la fête, c'est seulement si on l'a abattu pour, en tant qu'un autre sacrifice. Hastama, donc ça vient de là, je peux apprendre que si on l'a abattu sans précision, Patour il sera exempt car nous le considérons qu'il a été abattu en tant que sacrifice de Pessah. Amai, la Gemara demande pourquoi. Pessah, Bishar, Yemot, Hashana, Shlamim, Ameh. Nous avons une règle qui nous dit que le sacrifice de Pessah, lorsqu'il est offert tout au long de l'année, il est offert en tant que sacrifice rémunératoire. Et donc, pourquoi sans précision, on est exempt et on le considère comme s'il avait été abattu en tant que sacrifice de Pessah? Donc, de là, la Gemara va apprendre, Shmad Mine, ça sous-entend, Pessah Bishar Yemoz Hashana, le sacrifice de Pessah qui est apporté tout au long de l'année, Ba'e Akira, on a besoin d'enlever le nom de Pessah qu'il avait jusqu'à maintenant et de préciser que c'est un sacrifice rémunératoire. C'est-à-dire que c'est vrai que le sacrifice de Pessah est un sacrifice rémunératoire lorsqu'il est offert tout au long de l'année, mais il faut le préciser. Si on ne le précise pas, il garde son nom de sacrifice de Pessah. Donc, me répond, « Amar Priya Barganda, Priya Barganda a dit, « Nizreka Mipni Achabura. » Une réponse a été donnée à cette façon d'apprendre par le groupe d'études. Vers moi, ils ont dit, « Kegon Shayuba Alim Tmehemet. » Ici, nous parlons d'un cas où les propriétaires de ce sacrifice de Pessah sont devenus impurs parce qu'ils ont touché un mort. Vénitrin les Pessah Hacheni. Et donc, ils repoussent leur sacrifice à Pessah Hacheni, c'est-à-dire un mois après la fête de Pessah, lorsque tous ceux qui étaient impurs ou ceux qui étaient éloignés de Yerushalayim et qui n'ont pas pu offrir leur sacrifice de Pessah, l'offre, c'est-à-dire le mois d'après. Et donc, puisque ils attendent avec leur bête de l'offrir le à Pessah Hacheni, d'estam, et si on l'offre sans précision avant Pessah Sheni, le Shum Pessah Kaer, on l'offre en tant que sacrifice de Pessah, car ce sacrifice, c'est vrai qu'il n'a pas été offert à Pessah avec tout le monde, mais il attend Pessah Sheni, et donc il garde son nom de sacrifice de Pessah. Par contre, après Pessah Sheni, ou dans un cas où le propriétaire de ce sacrifice n'était pas une personne impure, et donc il n'attend pas Pessah Sheni, alors à ce moment-là, nous revenons à la première règle qui nous dit que tout sacrifice de Pessah qui est offert tout au long de l'année est considéré comme étant rémunératoire. Et nous continuons Bezrat Hashem, la prochaine Mishnah. Cette Mishnah va nous parler de comment était offert le sacrifice de Pessah. Et la Mishnah nous dit, HaPessah Nishrat Beshalosh Kitot. Le sacrifice de Pessah était offert en trois groupes. C'est-à-dire que chacun des Bnei Israël, ils se regroupaient ensemble et ils formaient ce qui s'appelle une Chabora, un premier groupe, et ils étaient nommés sur un sacrifice de Pessah, et après, toutes les Chaborot amenaient leur sacrifice de Pessah au temple, et on divisait tout le peuple qu'il y avait, tous ceux qui amenaient, on les divisait en trois grands groupes. Chez Nehemar, comme il est dit, « Meshachto oto kol kehal adat Israël » Et ils offriront toute l'assemblée du peuple d'Israël. Et donc ici, il y a trois choses. Kehal, l'assemblée, Ve'eda, et le peuple, Ve'Israël et Israël. Donc, il faut qu'il y ait trois groupes. Nichnesa Katrishona, le premier groupe, donc, rentrait. Nitmala Azara, et la cour du temple se remplissait. Dès que la cour du temple était remplie, Nahalud Latot, on fermait les portes de la cour du temple. De la Totaza, les portes de la cour du temple. Taku, Ariou, Betaku. Et à ce moment-là, on sonnait du shofar, un long son, puis des coups saccadés, et encore à nouveau un long son. A Kohanim, Omdim, Shurot, Shurot. Et les Kohanim se tenaient en rangée, depuis l'endroit où on abattait le sacrifice jusqu'à l'autel, ou Beyadehem, Bezire, Kesef, ou Bezire, Zav. Ils avaient dans leurs mains des bazichim, c'était des espèces de coupes avec un manche, des coupes comme ça, en argent et en or. Shura shekula kesef, kesef, la rangée qui avait des coupes en argent, alors toute la rangée avait des coupes en argent. Veshura shekula zahav, zahav, et la rangée qui avait des coupes en or, toute la rangée avait les coupes en or. Lo hayu meurabim, et ils ne se mélangeaient pas, velo hayu la bazichim shulaim, et ces bazichim, ces coupes, n'avait pas de fond plat, shema yenichum veikrash adam, de peur qu'on les pose par terre ou n'importe où, et le sang va devenir asséché. C'est pour ça que ces bazirines n'avaient pas de fond plat, seulement un fond pointu, et on ne pouvait pas les poser par terre. Ensuite, shachat Israël, lorsqu'on abattait la bête, alors un Israël abattait la bête, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah, vekibel a Kohen, le Kohen qui était à côté de la bête, recevait, et donc c'était le premier de la rangée, comme nous avons vu qu'il y a une rangée de Kohanim, depuis l'endroit où on abat la bête jusqu'à l'autel. Donc le premier Kohen de la rangée qui se trouvait à côté de la bête recevait le sang dans une de ses coupes. Notnon les Chavero, il faisait passer cette coupe à son ami. Le chavero le chavero, et son ami à son ami. C'est-à-dire qu'on faisait passer la coupe dans la rangée, ainsi de suite, jusqu'à l'autel. Où Mekabel est amalé, et donc, le Kohen recevait une coupe pleine, ou Marzir est arekan, et il rendait au Kohen qui venait de lui donner la coupe pleine, une coupe vide. Et c'est ainsi de suite, c'est-à-dire comme cela, on faisait une chaîne, et donc, le sang était reçu dans une coupe, et on le faisait passer par la chaîne jusqu'à l'autel, et donc, Mishnah continue nous dit, et Kohen a karov et tel amizar, le Kohen qui se trouvait proche de l'autel, zorkoz rika achat keneged ha'yesod. Il le jetait d'un coup sur l'autel, à l'endroit où l'autel avait une base. Car il y a une partie de l'autel qui n'avait pas de base, il fallait jeter le sang du sacrifice de Pessah à l'endroit où il y avait une base. Et nous allons voir d'où nous l'apprenons. Et une fois qu'il avait donc jeté le sang du sacrifice sur l'autel, la coupe était vide. Donc il la faisait repasser par la même chaîne vers les bêtes, l'endroit où on sacrifiait les bêtes, pour qu'on la remplisse à nouveau. Donc en fait, chaque Kohen faisait deux choses. Il recevait une coupe pleine, comme nous l'avons vu, et il la faisait passer au Kohen qui est à côté de lui, et il recevait la coupe vide, qu'il refaisait passer vers la bête. Donc en fait, il y avait les coupes avaient deux trajets, les pleines vers l'autel, et les vides depuis l'autel vers la bête. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on finisse tous les sacrifices de toutes les personnes qui sont rentrées dans la cour, dans la cour du temple. Une fois qu'on a fini tous les sacrifices du premier groupe, il y a Tzakat Rishona, on faisait sortir donc ce premier groupe, Benichnesa Kachnia, et on faisait rentrer le second groupe. Il y a Tzachnia, et on se conduisait de même avec le second groupe. Une fois que on avait fini d'offrir les sacrifices du second groupe, on les faisait sortir, Benichnesa Shlishit, et donc rentrer le troisième groupe. Et on sacrifiait le sacrifice de Pessah de la même du second et du troisième groupe de la même façon qu'on le sacrifiait pour le premier groupe. Car où est Hallel? Et lorsqu'on offrait le sacrifice de Pessah, on lisait le Hallel, Im Gamru, et si on le finissait avant qu'on ait eu le temps d'offrir tous les sacrifices de ce groupe, Shanu, alors à ce moment-là, on le lisait une seconde fois. Et si on a eu fini de le lire une seconde fois, et on n'a pas eu le temps encore de finir tous les sacrifices, on le lisait une troisième fois. Et la Mishnah nous dit que bien que, on dit une règle qu'on doit le lire une troisième fois, bien que ce n'est jamais arrivé une chose pareille, qu'on ait besoin de le lire une troisième fois. Car ceux qui s'occupaient du sacrifice de Pessah étaient tellement zélés et tellement rapides, qu'ils avaient le temps de s'occuper de tous les sacrifices de Pessah, en moins de temps qu'il ne faut pour lire deux fois, trois fois le Hallel. Rabbi Yehuda nous dit, Miyamehem shel kat shlishit, lo idiu lehavti ki ishma Hashem. Lorsque le troisième groupe de personnes amenait le sacrifice, ça n'est jamais arrivé qu'on lise le Hallel et qu'on arrive jusqu'à Ahavti ki ishma Hashem. C'est un chapitre du Hallel. Ça n'est jamais arrivé qu'on arrive à cet endroit-là, car on a déjà eu le temps de finir d'offrir tous les sacrifices du troisième groupe. Pourquoi? Car il n'y avait pas beaucoup de personnes qui amenaient l'ordre avec le troisième groupe. C'est-à-dire que le troisième groupe, c'était vraiment tous les retards d'Aseret. Et donc, c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et comme nous avons déjà dit, étant donné que les personnes qui s'occupaient du sacrifice de Pessah étaient très zélées et très rapides, donc ils avaient le temps de finir tous les sacrifices du troisième groupe avant qu'on arrive à Avti Kishma Hashem. Que Maase ou Bechol, de la même façon qu'on l'offrait un jour profane, car Maase ou Beshabbat. Ainsi, on l'offrait aussi un jour de Shabbat. Et là, Shakohanim, Medichim et Azara, Shelo Bistan Chachamim. Il y avait une différence, c'est que le Shabbat, les Kohanim lavaient la cour du temple après le sacrifice de Pessah à l'encontre de la volonté des sages. C'est-à-dire, lorsque c'est un jour profane, alors c'est pas grave, on peut laver la cour du temple. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est Shabbat, les sages n'étaient pas d'accord, mais le Kohanim le faisait quand même. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, « Kos aya memale midam atarovet » Avant de laver la cour du temple, on prélevait un verre du sang, du mélange de sang qu'il y avait dans la cour du temple. « Et zarkos rika achat al gabe mizvar » Et ce sang-là, on le jetait d'un jet sur l'autel. Car on craint qu'un des sacrifices de Pessah son sang n'ait pas été jeté sur l'autel et son sang est tombé par terre. Et donc, lorsqu'on prend un verre de sang qui se trouve dans la cour du temple par terre, alors à ce moment-là, on prend en fait un sang du mélange de tous les sangs, de tous les sacrifices de Pessah. Et comme cela, alors ça s'appelle qu'on a jeté le sang de tous les sacrifices de Pessah. Comme ça, tous les sacrifices de Pessah sont aptes à la consommation. Mais les sages ne sont pas d'accord avec lui. Maintenant, la Gemara continue nous dit, la Mishnah continue nous dit, une fois donc qu'on a sacrifié, qu'on a abattu la bête et qu'on a jeté le sang sur l'autel, que faisons-nous? Ketzad tolin ou mafshitin? Comment le suspendait-on pour le dépecer? Il fallait donc dépecer ce sacrifice, il fallait dépecer la bête pour pouvoir la mettre sur le feu, la manger. Alors comment la dépeçait-on? Alors, unkeliot shel barzel, il y avait des crochets de fer, hayuk vouim bektalim ou be'amudim, qui étaient fixés dans les murs et dans des poteaux au temple. Chez Bahem, Tolin ou Mafshitim. Et sur ces crochets, on suspendait la bête et on la dépeçait. Kolmi, chez El Makom, Litlot ou Lafshit. Et quiconque qui n'avait pas d'endroit pour suspendre sa bête et la dépeçait, Maklot, Dakim, Vechalakim, Ayusham. Il y avait là-bas au temple des bâtons duquel on avait enlevé l'écorce, qui était fin et duquel on avait enlevé l'écorce. Et donc il prenait ce bâton et le déposait sur son épaule et sur l'épaule de son prochain, c'est-à-dire il se mettait en face de son ami et il mettait le bâton sur son épaule jusqu'à l'épaule de son ami, vetolé, et il suspendait le sacrifice sur ce bâton, umafshit, et il dépeçait la bête. Rabbi Lezer nous dit, Yudalet, si le 14 Nissan.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante d'Av Samech Dalet Amoud Bet. Shechal Liot Veshabbat, tombé un jour de Shabbat, et donc on n'avait pas le droit d'utiliser ce bâton, mais Niach Yado Al Katef Havero, il déposait sa main sur l'épaule de son ami, Veyat Havero Al Tefo, et son ami déposait sa main sur son épaule, Vetolé ou Mafshit, et il suspendait le sacrifice sur son bras, et ainsi le dépeçait. Kerao, après cela, il le découpait, Veoti était morav, et il en sortait les membres qui doivent être offerts sur l'autel. Netano bemegis, et il les mettait dans une bassine, Vektiran al gabamizar, et après cela, il les apportait sur l'autel pour les brûler sur l'autel. Et lorsque c'était un jour de Shabbat, Yatzak Atrishona, dès que le premier groupe sortait, Biyashvala Barabait, et elle allait s'asseoir avec leur sacrifice, ce premier groupe allait donc s'asseoir avec leur sacrifice sur le mont du temple. Shnia, une fois que le second groupe avait fini d'apporter ses sacrifices, eux ils s'asseyaient Bachail, dans la barrière qui entourait le mont du temple. C'est-à-dire que le mont du temple, il y avait premièrement une muraille qui entourait le mont du temple tout autour. Puis, entre cette muraille et le temple en lui-même, il y avait une barrière. Et donc, le premier groupe s'asseyait entre la muraille et la barrière, le second groupe s'asseyait entre la barrière et le temple en lui-même. Ve'ashlichit, et le troisième groupe, Bimkoma Omedet, restait à sa place, c'est-à-dire dans la cour du temple. Et pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le droit de griller le sacrifice de Pessah tant que le Shabbat n'est pas sorti. Et nous parlons ici, bien sûr, d'une veille de Pessah qui tombe un jour de Shabbat. Et donc, puisqu'il n'avait pas le droit de griller, alors que faisait-il? Il restait sur place, il attendait. Chachecha, dès que la nuit tombait, Yatsou et Talot Pisrem, tout le monde sortait et allait faire cuire leur sacrifice de Pessah. Agma nous dit, Amar Rav Yitzhak a dit, En a Pessah nishrat, Ela b'shalosh kitot shel shloshim bnei adam. Le sacrifice de Pessah n'est offert que en trois groupes de 30 personnes. Maïtama, pour quelle raison? Kehal, Ve'eda, Ve'Israël. Il est écrit trois choses. L'assemblée, le peuple et Israël. Et donc chacun, c'est au moins 10 personnes, donc ça fait en tout 30 personnes, et c'est divisé en trois, donc il faut trois groupes de 30 personnes. Mais Sab Kelan, et on s'est douté, l'agma s'est douté, Ibevatachat, est-ce qu'il faut que ces trois groupes qui forment 30 personnes apportent ensemble, c'est-à-dire 3 fois 10 personnes ensemble, Ibezaharze, où l'intention est l'un après l'autre. 3 groupes, et chaque groupe différemment, il doit y avoir un minimum de 30 personnes dans chaque groupe. Ikar, c'est pour cela que Bainan, Shalosh, Kitot, on a besoin de au moins 3 groupes, chez Shloshim, Shloshim, Bnei Adam, d'au moins 30 personnes chacun. Dei bebatachat, car si ce que la Torah demandait, c'est qu'il y ait 30 groupes, 30 personnes ensemble, haïka, dans le premier groupe, il y a 30 personnes ensemble. Vei bezacharze, et si la Torah a demandé qu'il y ait 3 groupes l'un après l'autre, haïka, là aussi il y a 3 groupes l'un après l'autre. Ilkar, et c'est pour cela aussi que, bechamishin, mais s'il n'y a que 50 personnes qui veulent offrir le sacrifice de Pessah, namisaga, c'est aussi suffisant. Daelet latin, on fait rentrer 30 personnes, veavde, ils font le sacrifice de personnes, de Pessah, aide asara, venafka asara, on fait rentrer après encore 10 personnes et on fait sortir 10, et aide asara, venafka asara, on fait rentrer encore 10 et fait sortir 10. Et donc c'est pour cela que, si on fait une chose pareille, alors il y a, premièrement, le premier groupe, il y a 30 personnes, donc ça nous rend quitte de la possibilité de dire qu'on a besoin de 30 personnes d'un coup. Et après, lorsqu'on fait rentrer 10 et 10, ça nous rend quitte de l'autre possibilité, c'est-à-dire que 3 groupes de au moins 10 personnes chacun. La Gemara apporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Nirnesa Kadrishona, le premier groupe rentrait dans la cour du temple, verroulé, etc. Et on fermait les portes de la cour du temple. Itma, il a été dit. Abaye Amar, Abaye nous dit, Nin Ailudnan, nous avons enseigné dans la Mishnah que les portes se fermaient toutes seules. Et c'est comme ça qu'il faut lire dans la Mishnah, Nin Ailu, elles se fermaient toutes seules. Rava Amar, Rava nous dit, No Alimnan, on enseigne dans la Mishnah, on les fermait. C'est pas qu'elles se fermaient toutes seules, mais il fallait les fermer. La Gemara demande, Mai Benayu, quelle différence y a-t-il entre ces deux opinions? Et qu'à Benayu, il y a différence entre ces deux opinions, les Mismachanissa, est-ce qu'on a le droit de se reposer sur le miracle? Abaye Amar, Abaye nous dit, Nina Lutnan, les portes de la Hazara se fermaient toutes seules, c'est ça, ainsi qu'on a enseigné. Et donc, Kamada Ailu, Malu, tout ce qui rentrait dans la cour du temple, on faisait rentrer. C'est-à-dire, tant qu'il y a des gens qui rentraient et que les portes ne se fermaient pas, on faisait rentrer dans la cour du temple. Mais Samrina Nanissa, et on se repose sur le miracle, que lorsque la cour sera pleine, les portes se fermeront. Rava Amar, Rava nous dit, No Alimtnan, on fermait et on enseignait à la Mishnah qu'on fermait les portes de la cour du temple. Velos amprina nanita, et donc on ne se reposait pas sur le miracle. Et lorsque la cour était pleine, on la fermait. Et la Gemara, maintenant, nous rapporte une Mishnah qu'elle va expliquer d'après l'opinion de Abaye et d'après l'opinion de Rava. Vaditnan, est-ce que nous avons enseigné dans la Mishnah? Amar Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda a dit, Chazve shalom shakavya ben mehalalel nitnada. Chazve shalom kakavya ben mehalalel a été excommunié. Parce que dans cette Mishnah, il citait plus haut qu'il y a certaines personnes qui disent qu'Akavia ben Mahalalel a été excommunié. Alors Rabbi Yehuda dit, Chazé Shalom, ce n'est pas possible qu'Akavia ben Mahalalel a été excommunié. She'en azara ninelet al kol adam b'Israël. Car les portes de la cour du temple ne se fermaient sur personne dans le peuple d'Israël qui était grand, bechokhma ou beiratret, qu'Akavia ben Mahalalel. Qui était grand en sagesse et en crainte de la faute, comme Akavia ben Mahalalel. C'est-à-dire que, lorsqu'on fermait les portes de la cour du temple au moment où on amenait le sacrifice de Pessah, et donc que tout le peuple d'Israël se trouvait à l'intérieur du temple, il n'y a personne qui était aussi grand en sagesse et en crainte de la faute qu'Akavir ben Mahalalel. Donc ce n'est pas possible qu'il ait été excommunié. Alors il y a deux explications. Abaye metaret etame. Abaye il explique cette Mishnah d'après son opinion. Verava metaret etame. Et Rava explique cette Mishnah d'après son opinion. Abaye metaret etame. Abaye explique cette Mishnah d'après son opinion. En bazara beshah sheninela. Il n'y a personne dans la cour du temple lorsque les portes se ferment toutes seules. Alkol adam b'Israël. Sur le peuple d'Israël, il n'y avait personne dans le peuple d'Israël qui était grand en sagesse, bechokhma en sagesse, ou beiratret en crainte de la faute qu'Akavia ben Mahalalel comme Akavia ben Mahalalel. Rava metares et tamé. Et Rava explique Mishnah suivant son opinion. En bazara beshah shenoalimota. Il n'y a personne dans la cour du temple au moment où l'on ferme les portes, et pas au moment où elles se ferment toutes seules. Alkol Israël, surtout le peuple d'Israël, Bechokhma ou Beiratret qu'Akavia ben Mahalalel. Quelqu'un qui est grand en sagesse et en crainte de la faute comme Akavia ben Mahalalel. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignaient, Mais Olam Lolitmaer Adam Bazara. Personne n'a jamais été écrasé dans la cour du temple lorsque tout le peuple amenait le sacrifice de Pessah. Routz mi Pessah Echad, à part une année où tout le monde a amené le sacrifice de Pessah, Shaya Bime Hillel, et c'était à l'époque de Hillel, une fête de Pessah à l'époque de Hillel, Shenitmaer Bozaken Echad, où une personne âgée a été écrasée, Vayo Korinoto Pessah Meuchin. Et c'est à cause de cette histoire, le Pessah de cette année a été appelé Pessah Meuchin, c'est-à-dire le Pessah écrasé. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignaient, פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. Une fois, Agrippas, le roi, a voulu savoir le nombre de personnes qu'il y a dans le peuple d'Israël. Amar le Kohen Gadol, alors il lui a dit au Kohen Gadol, Ten anecha babsachim, compte les sacrifices de Pessah que l'on amène et tu sauras, d'après le nombre de sacrifices de Pessah qu'il y a, le nombre de personnes, le nombre de béné Israël qu'il y a. Alors, Natal Kulia Mikol Achad. Alors il a pris un rein de chaque sacrifice de Pessah. C'est-à-dire que chaque sacrifice de Pessah que l'on abattait, le Kohen Gadol en prenait un rein et après les ont comptés. Ils ont trouvé 60 dizaines de milliers, c'est-à-dire 600 000 couples de reins, c'est-à-dire 600 000 fois 2, ça veut dire 1 200 000 reins. C'est le double de personnes qui sont sorties d'Égypte. Là, il y a 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte, et là, on a trouvé 1 200 000. Et ça, c'est à part ceux qui étaient impurs ou ceux qui étaient en chemin éloigné, qui n'ont pas pu amener leur sacrifice de Pessah. Mais en lecha kol Pessah ou Pessah, shelo nimnu alav yoter me'asara bnei adam. Et il n'y avait pas de sacrifice de Pessah sur lequel il y avait moins de 10 personnes qui ont été nommées dessus. C'est-à-dire que sur chaque sacrifice que l'on amenait, il y avait au moins 10 personnes qui faisaient partie du groupe qui amenait ce sacrifice. Donc en fait, il y avait 1 200 000 sacrifices fois 10 personnes, ça fait 12 millions de personnes au moins. Et cette année-là, on a appelé la fête de Pessah, Pessah Mouvim. La fête de Pessah Mouvim, c'est-à-dire la fête de Pessah nombreuse. Et Mouvim, la traduction littérale, c'est épais. Mais c'est-à-dire, en fait, attention ici, Pessah nombreuse, ça veut dire que parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Alors, Agmar revient maintenant sur ce qui a été dit. Natal Kulia, il a pris un rein de chaque sacrifice de Pessah. Comment est-ce possible? Abayaktore. Les reins, c'est une partie de la bête d'un sacrifice que l'on doit offrir sur l'autel, brûler sur l'autel. L'Agma répondait à Maktirleou. Après l'avoir pris, après l'avoir compté, il les a fait brûler sur l'autel. L'Agma demande, c'est pas possible. Véactif, pourtant il est écrit. Véictiro, et il le brûlera. Et de là nous apprenons, Shelo yarev chalava shelze, beze, que l'on n'a pas le droit de mélanger les parties d'un sacrifice à brûler avec les parties d'un autre sacrifice à brûler. Les parties d'un sacrifice doivent être brûlées à part, et après cela on appelle les parties d'un autre sacrifice. Donc comment a-t-il pu les brûler tous ensemble, tous les reins ensemble? L'Agma répondait, Adam Maktir Leo Khadakhala. Non, il les a brûlés les uns après les autres. L'Agma demande, même ça, c'est pas possible. Vatania, car nous avons appris dans une Mishnah, dans une Braïta. Vehiktiram, et il les fera brûler. Sheye Kulok Echad, que toutes les parties du sacrifice qui doivent être brûlées sur l'autel doivent être offertes ensemble. Donc c'est pas possible qu'il a pris le rein qu'il a offert après. Et là, alors l'Agma répond, alors non, en fait, Fisa Be'alma. C'est juste, en fait, ils attrapaient des Shakil Minayu. Il prenait un rein jusqu'à qu'on lui donne autre chose. C'est-à-dire, il prenait un rein et on lui donnait par exemple une pierre en contrepartie de ce rein. À ce moment-là, il rendait le rein et il mettait la pierre de côté. Et après, il comptait le nombre de pierres. Il savait que le nombre de pierres comptait correspondait au nombre de reins. Et c'est comme cela qu'il a su le nombre de sacrifices de Pessah qui ont été amenés. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Kohanim omdim shuvot. Les Kohanim se tenaient en rangée. Il y avait une rangée qui avait des coupes en, des basichines, ces sortes de coupes en or, et une autre rangée qui avait des coupes en argent, et ils ne se mélangeaient pas. La Gemara demande, Maïtama, pourquoi ne se mélangeait-il pas? Il y m'a dit, ma chaklé de dava, ou maïlé de kaspa, si l'on craint qu'il donne une coupe en or, et qu'il prenne une coupe en argent, et qu'il ne peut pas faire une chose pareille, car il y a une règle qui nous dit que maalin bakodesh ven moridin, lorsqu'on s'occupe des choses saintes, on monte toujours en degré. Et donc, ce n'est pas possible de donner de l'argent et de donner une coupe en or et de recevoir une coupe d'argent, car ça s'appelle descendre de degré. Alors, donc, c'est pour cela qu'il y avait des rangées où il n'y avait que de l'argent et des rangées où il n'y avait que des coupes en or. Alors, l'Agma nous dit malgré tout, Hanami, même ici, lorsqu'il n'y a que des rangées qu'en or et qu'en argent, il y a un autre problème. Dilma Shakle Barmatan, ou Maile Barmea, peut-être qu'il va donner une coupe qui a une valeur de 212 et il va prendre une coupe qui a une valeur que de 212. Et donc, il va aussi descendre en degré. Et là, alors on va répondre, en fait, ça c'est pas la raison. Des achishapir tfe. Parce que ainsi, c'est plus joli, c'est plus beau. Lorsqu'il y a une rangée avec que des coupes en or, une rangée que avec des coupes en argent, c'est plus beau qu'une rangée où c'est mélangé. Des coupes en or et des coupes en argent mélangées. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Velo hayu la bazichin shulain. Que ces bazichin, ces espèces de coupes avec un manche, n'avaient pas de fond plat pour pas qu'on puisse les déposer par terre. Alors la Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent. Kol abazichin shebamigdash, tous les bazichin, ces coupes avec les manches qui étaient dans le temple, lo hayu lahem shulaim, n'avaient pas de fond plat, pour pas qu'on puisse les déposer par terre. Chutz mi bazichel evona, à part les bazikhin, les coupes dans lesquelles on déposait la lavana, qui était une sorte d'encens, chez l'Echem Apnim, et que l'on amenait au l'Echem Apnim, c'est-à-dire que l'on déposait sur la table qui était dans le sein, sur cette table à laquelle il avait le pain, et donc cette coupe que l'on déposait là-bas avait quand même un fond pour plat, et on pouvait la déposer. Pourquoi ? Shema yanichon beifros alechem, de peur que, étant donné qu'elle n'a pas de fond bas, alors les Kohanim qui s'occupent de ça vont le déposer sur le pain et vont abîmer le pain. La Gemara apporte maintenant notre extrait de la Mishnah. Shachat Israël vekibel haKohen. On a mis donc le sacrifice de Pessah dans la cour du temple, et un Israël l'abattait, et le Kohen recevait le sang. Alors la Gemara demande, lo saga de lav Israeli. N'est-ce pas possible que ce soit quelqu'un d'autre qu'un Israël qui abatte la bête? C'est-à-dire qu'il y a trois degrés. Il y a Israélim, Lévim et Kohanim. Alors nous dit, la Mishnah nous dit que c'est un Israël qui a abatté le sacrifice de Pessah. Alors la Gemara demande quoi? C'est pas possible qu'un Kohen l'abatte, par exemple, s'il veut? Alors la Gemara répond, non, Goufa Kamashan. Ça, justement, ça vient nous apprendre. Deshrita Bezar Kshera. Il est permis à un non-Kohen d'abattre un sacrifice. Et donc, c'est ce que la Mishnah vient nous apprendre. Et donc, elle vient pas nous dire que c'est qu'un Israël qui peut l'abattre, mais elle vient nous dire que même un Israël a le droit d'abattre le sacrifice. La Gemara ensuite rapporte la suite de la Mishnah qui nous dit Vekibel haKohen. Et le Kohen recevait le sang dans donc ces espèces de coupes. Hakamashma. Donc, ça vient nous apprendre. Mikabala Velar. À partir du moment où on reçoit le sang dans les coupes, Mitzvah Keuna. C'est la Mitzvah des Kohanim. Et ce n'est plus pour un Israël ne peut pas le faire. Nodo le Chavero. Et il faisait passer cette coupe à son ami, et son ami, à son ami, etc., jusqu'à l'hôtel. Shmat mine, de là, ça sous-entend, olacha shelo baregel avia olacha. Que la partie du service qui consiste à apporter, amener le sang vers l'hôtel, si on ne le fait pas sans marcher, c'est aussi considéré comme étant amener le sang vers l'hôtel. Car ici, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un kohen l'un après l'autre, et il faisait passer le sang jusqu'à l'hôtel, et donc en fait, il n'y a aucun kohen qui marchait, il restait tout sur place, et c'est ainsi qu'on amenait le sang sur l'hôtel. Donc nous voyons que cette partie du sacrifice, du service, on n'a pas besoin de la faire en marchant. Amener le sang vers l'autel, on n'a pas besoin de marcher. Il suffit de l'amener même sans marcher. Alors que ma réponse, Dilma, Hunaïd Pourte. Peut-être que non. Peut-être qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le dernier Kohen qui se trouvait à la fin de la rangée bougeait un petit peu et marchait, lui, vers l'autel. Donc, on ne peut pas apprendre ici que cette partie du service, on n'a pas besoin de marcher. Peut-être qu'on a quand même besoin de marcher. Selon toute la rangée, personne ne marchait, juste le dernier marchait un petit peu. Mais la maïka machin. Alors, la Gemara demande, alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ah, kamachan, ça vient nous apprendre. Berov am, adrat meler. Quand la nation s'accroît, c'est une gloire pour le roi. C'est un verset des proverbes. Et en fait, ce verset vient nous dire, plus il y a de personnes qui s'occupent du service du temple, plus c'est une gloire pour le roi, c'est-à-dire pour Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, c'est pour cela qu'il y avait tellement de Kohanim, une rangée entière de Kohanim, qui s'occupaient du service. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Kibel et Amalé ou Marzir et Arikan. Les Kohanim étaient donc en rangée et ils recevaient la coupe pleine et rendaient au Kohen qui venait de lui donner cette coupe pleine la coupe vide. Aval, et la Gemara veut apprendre de là. Aval, Ifra, mais le contraire, non. C'est-à-dire, on devait d'abord recevoir la coupe pleine et après rendre la coupe vide. Et non pas d'abord rendre la coupe vide et après recevoir la coupe pleine. Mais ça y est, Rabbi Shimon ben Lakish, ça vient soutenir ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish. D'abord, Rabbi Shimon ben Lakish, car Rabbi Shimon ben Lakish a dit, En ma vein à la mitzvot. On n'a pas le droit de laisser passer une mitzvah. Lorsqu'une mitzvah vient entre nos mains, on n'a pas le droit de la laisser passer. Et donc, c'est pour cela que, étant donné que son voisin a la coupe pleine, il devra d'abord recevoir la coupe pleine, faire la mitzvah de faire passer la coupe, et après cela, rendre la coupe vide. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Kohen akarov etzel hamizbeach, le Kohen qui se trouvait proche de l'autel, jetait le sang du sacrifice d'un coup sur l'autel. Mantana Pesach Bezrika. Quel est le Tana qui pense que l'on a besoin de jeter le sang du sacrifice de Pesach sur l'autel? Amar Rav Chisda a dit, Rabbi Yossi Aglili, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, des Tanya, car nous avons enseigné dans une boîte. Rabbi Yossi Aglili omer, Rabbi Yossi Aglili dit, et damam tizrok al hamizbeach. Et leur sang, tu jetteras sur l'autel. Vetrelbam taktir, et leur graisse, tu feras brûler. Donc, et nous voyons de là que Damolonemar, il n'est pas dit son sang, et là Damam, leur sang. Or, le verset ici nous parle d'une seule sorte de chose. Il parle d'un premier-né. Il y a une règle qui nous dit que le Bechor doit être donné au Kohen, et on l'offrira au temple, etc. Et donc, nous parlons ici le premier-né des bêtes, bien sûr. Nous parlons ici, bien sûr, donc nous parlons du premier-né des bêtes, et nous voyons que non, il n'est pas dit il n'est pas dit son sang, le sang de ce premier-né, mais leur sang. Donc en fait, ça vient inclure d'autres sacrifices. Alors quels sont ces sacrifices? Et de même, chelbol en emar, il n'est pas dit ses graisses à lui au singulier. Et la chelbam, mais leur graisse au pluriel. Donc l'imed al bechor ou maaser ou pesar, ça vient enseigner que le premier-né des bêtes et la dîme des bêtes et le sacrifice de pesar, eux aussi, shehent onim matan damim ve'emorim le gabezar, qu'on a besoin de jeter le sang et de faire brûler les graisses au-dessus de l'autel. La Gemara demande maintenant, minalan de teonin yosod, d'où savons-nous qu'on a besoin de jeter le sang à l'endroit où il y a une base, car l'autel, il y avait un endroit où il y avait une base, il y avait un endroit où il n'y avait pas de base. Alors d'où savons-nous que l'on a besoin de jeter le sang du sacrifice de Pessah à l'endroit où il y a une base? Omar Rabbi Lazar a dit, Atia zrika zrika meola, on l'apprend par Xera Shava du mot zrika, de jeter, du sacrifice holocauste. Ktivacha, il est écrit ici, et damam tizrok alamizbea, et leur sang tu jetteras sur l'autel. Vektivata, mais il est écrit là-bas à propos du sacrifice holocauste, vezako bene aaron akoanim et damo alamizbea. Et les enfants de Aaron, les Kohanim, jetteront son sang sur l'autel, sa vive autour. Alors, ma'ola, de même qu'à propos de l'Holocauste, Teonaïsor, on a besoin de jeter le sang de l'Holocauste sur, à l'endroit de l'autel où il y a une base. Pesach namita on yesod. Et de même, le sacrifice de Pessah, on devra jeter son sang sur l'autel, à l'endroit où il y a une base.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.